Interview.
1 du jour.
Milan, bonjour.
Bonjour.
Nous sommes au sein du Makistan, deuxième journée. Vous proposez un atelier en référence à Google. Lequel ?
Alors, plus précisément, on propose de sensibiliser les gens à toutes les fuites qu'ils peuvent y avoir sur leurs appareils numériques, consciemment ou à leur insu. Et donc, Google en fait partie, mais Microsoft... Tous les GAFAM en fait ont un petit peu mis leur joue sur l'informatique et l'internet. On est là pour sensibiliser sur les enjeux politiques qu'il y a autour de l'utilisation de l'informatique et de nos smartphones. Et en fait, Google a une position un peu monopolistique avec Android sur tous nos téléphones portables. Et depuis quelques années, il y a plein de libristes qui se sont motivés pour créer des systèmes d'exploitation libres. On profite du stand qu'on a ici pour vulgariser un peu ces systèmes d'exploitation, montrer aux gens comment c'est possible de les installer relativement facilement, et au-delà de ça, même en restant sur un système Android normal, comment installer des applications libres et essayer de s'affranchir un maximum de toutes les applis qui sont contrôlées par les GAFAM et qui du coup contiennent toujours des backdoors et des choses cachées dans leur code qui permettent de faire fuiter des données.
Alors là, vous parlez essentiellement de l'utilisation d'un téléphone portable, Android en particulier, avec justement cette omniprésence de Google au sein de ces appareils. Et qu'est-ce que vous proposez comme alternative, comme navigateur justement ?
Alors, en termes de navigateur Internet, Firefox, Mozilla, ça fait assez longtemps que ça existe et c'est un logiciel libre. Du coup, c'est vrai qu'on fait pas mal la promotion des logiciels libres parce que par opposition à Google Chrome ou à Internet Explorer ou des choses comme ça, le code source de ces logiciels sont complètement ouverts et accessibles à tous. Et ça permet d'avoir un regard et une vigilance collective sur l'évolution des codes de ces applications. Donc en navigateur, on va préconiser l'utilisation de Firefox ou de Fennec sur les téléphones portables. Pour les ordinateurs, au lieu d'avoir Windows, on peut facilement installer aujourd'hui Linux sous ses différentes formes. Il y a Linux Mint et plein d'autres dérivés qui existent. Et pour les téléphones portables, pour éviter Android, on peut installer Lineage OS, EOS ou GraphenOS. Et donc, selon les modèles de téléphone, en fait, il y a des personnes qui se sont motivées à réécrire le code d'Android pour chacun des modèles, parce qu'en fait, à chaque appareil, il faut un code spécifique pour pouvoir avoir un operating system complet, un système d'exploitation complet. Donc, des fois, il faut être un peu patient, il faut attendre qu'une équipe de geeks se mette dessus et crée le nouveau code pour permettre... d'avoir le système d'exploitation qui est adapté au téléphone.
Cette alternative que vous proposez est en quelque sorte dans des balbutiements ou alors il y a des choses quand même bien établies ?
Ça commence à faire quelques années déjà. Du coup, moi, ça fait plusieurs années que j'ai plus Android sur mon téléphone portable et les systèmes sont extrêmement performants. J'ai aucun souci. Les seuls problèmes qui parfois peuvent arriver, c'est si on a des besoins d'applications qui sont très liées à Google, pour des raisons professionnelles ou autres. Par exemple, là on est au Makistan, pour les personnes qui travaillent à la frontière et qui aident les exilés à s'installer et à créer un peu un réseau d'entraide, la plupart des exilés ont WhatsApp sur leur téléphone portable. Et c'est vrai que WhatsApp, c'est Meta, ça fait partie du groupe Facebook. Et c'est les systèmes d'exploitation libres permettent d'installer ces applications-là, mais ça demande du coup de laisser des petites portes d'entrée à des codes pas libres sur des systèmes d'exploitation libres. Donc les deux sont compatibles, mais parfois il peut y avoir des selon les mises à jour et tout, il y a des fois il va falloir débloquer des tout petits trucs. Mais pour tout ce qui est application libre, ces systèmes d'exploitation marchent vraiment très bien.
Vous-même êtes un geek en quelque sorte ou un passionné du numérique ?
Pas tant que ça. Moi, je suis plus venu sur les logiciels libres par militantisme que par intérêt pour la chose informatique. Après, j'ai fait des études de mathématiques et donc j'ai un peu appris à la fac les béaba de l'informatique, mais j'ai jamais été vraiment passionné par ça. Mais on m'a quand même transmis cette philosophie et l'importance de militer pour des logiciels libres parce que c'est des choses qui sont utilisées au quotidien par plein de personnes et qu'en optant pour le libre, on opte pour une émancipation face aux GAFAM et aux grosses puissances économiques qui vont avoir un intérêt économique, donc vouloir faire du profit à partir des informations qui sont brassées. Alors que les applis libres sont développées par des bénévoles. Et d'ailleurs, on les remercie parce que ça prend un temps fou. Et le réseau de libristes permet vraiment aujourd'hui de s'affranchir complètement et de s'émanciper complètement de tous ces GAFAM.
À votre connaissance, ce réseau libriste, comme vous le dites, est en plein développement. Il a une bonne base déjà établie.
Il a une bonne base et c'est vrai qu'il est assez transgénérationnel parce que dans les clubs de libristes ou même enfin, qu'on peut trouver autour de chez soi avec notamment les install parties où les personnes qui se sentent compétentes proposent d'installer Linux sur les ordinateurs des personnes qui veulent ou EOS ou Lineage OS. Et du coup, c'est vrai que moi, j'ai rencontré plein de personnes, des personnes retraitées ou alors des personnes d'une vingtaine d'années. Donc, il y a un réseau qui existe depuis quand même pas mal d'années et qui se renouvelle aujourd'hui. Donc, c'est assez positif. Hein, c'est source d'espoir parce que je pense que les enjeux politiques derrière ça sont en train de se généraliser et de se vulgariser. On rencontre de plus en plus de personnes qui sont intéressées et on le voit aussi dans les stands qu'on propose. La curiosité, elle est là, les gens sont intéressés, ont envie. Et c'est vrai que passer le pas, c'est pas toujours évident. Mais par rapport à il y a 20 ans où Linux, c'était un peu obscur, les applications de type Photoshop et autres ne pouvaient pas marcher. Aujourd'hui, déjà, elles marchent vachement mieux et il y a plein de logiciels libres qui sont vachement perfectionnés et qui permettent de se passer de ces logiciels qui paraissaient essentiels. Enfin, je pense notamment en architecture ou en ingénierie. Il y avait Archicad ou des logiciels d'écriture vectorielle. Voilà. Et aujourd'hui, avec FreeCAD, on arrive à avoir un logiciel hyper complet, très pointu et qui permet d'aller très loin en termes d'utilisation.
Ça s'est beaucoup plus amélioré dans l'utilisation, dans l'ergonomie. Je me souviens, GIMP, dans les premières années, c'était assez fastidieux avec cette multitude de petites fenêtres qui apparaissaient sur l'écran. Ça s'est un peu calqué sur Photoshop au niveau de la construction. Donc ça, c'est un bon point. Et pour d'autres applications, j'imagine que c'est pareil. Comment se fait connaître justement ce réseau alternatif ? Ici, c'est le Makistan. Est-ce qu'il y a une organisation aussi un peu localisée sur toute la France de ces activités ? Par exemple, à Die, nous avons l'IODI qui développe aussi le système Linux hein, comme système d'exploitation avec aussi l'aménagement d'un data center local pour éviter d'être en accès sur les GAFAM, par exemple.
C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un réseau associatif qui s'est développé et qui permet d'avoir accès à des humains et de ne pas être seul sur son ordinateur à chercher les informations. Et il y a un réseau, par exemple, des parrains et marraines Linux en cherchant sur un navigateur Internet, on peut chercher assez facilement le réseau des parrains et marraines Linux qui recense toutes les personnes qui s'inscrivent et qui sont compétentes pour accompagner. Il y a aussi des... Enfin, nous, dans les Hautes-Alpes, on a un réseau Linux Alpes, qui est assez fourni et où on peut facilement trouver des gens à côté de chez soi ou être redirigé vers des install parties. Et je pense que ça se diffuse pas mal avec le bouche à oreille et de plus en plus avec ce genre d'émission. Et vu qu'on prend conscience collectivement des enjeux du numérique et aussi de la... Enfin, du rôle que le numérique joue dans nos vies aujourd'hui, parce que les nouvelles générations, elles ont grandi avec un téléphone dans la main, elles ont accès à Internet depuis tout petit. Et du coup, ça fait partie intégrante de leur vie sociale, de leur vie professionnelle, même de leur vie personnelle avec tous les réseaux sociaux. Et du coup, on a des réseaux sociaux comme Mastodon qui proposent des serveurs décentralisés, qui empêche du coup d'avoir une politique restrictive. Si jamais Facebook demain décidait de mettre une censure en place sur certains, enfin sur la question de, par exemple, du génocide en Palestine ou d'autres sujets un peu politiques, ils pourraient bloquer complètement toutes les publications avec le mot-clé Palestine, alors qu'avec des systèmes comme Mastodon, qui sont déjà libres et qui en plus sont décentralisés avec plein de serveurs multiples, il n'y a pas du tout de possibilité verticale de bloquer l'information. Donc ça se diffuse et c'est beaucoup plus horizontal et autogéré.
Écoute l'actualité et aussi les investissements opérés par ces grands groupes, notamment Microsoft, X et compagnie. Comment fonctionne économiquement ce réseau justement des libristes, des alternatives? Est-ce qu'il y a une possibilité limitée ou illimitée de son développement avec de très faibles moyens?
Alors je dirais, le modèle économique, il est basé sur le don. Mais en tout cas, la plupart des logiciels libres sont gratuits et le don est fortement recommandé pour justement permettre de payer les coûts liés au développement de ces applications libres. Parce que, par exemple, il va falloir un accès à un serveur, il va falloir du matériel informatique. En général, c'est le matériel personnel des gens. Mais le travail en lui-même est bénévole. Mais il y a quand même des coûts liés au développement de ces applications qui demandent de l'argent. Et donc, les campagnes de dons sont assez fréquentes pour aider au développement et à la mise à jour de ces applications. Parce que c'est vrai que c'est pas tout de développer une appli ou un logiciel. Mais derrière, il faut le mettre à jour parce qu'il y a des failles dans qui apparaissent avec l'évolution des logiciels et des systèmes d'exploitation qui créent donc des portes d'entrée pour des potentiels hackers que ce soit des puissances étatiques ou des hackers malveillants. Mais en termes de sécurité, c'est hyper important de continuer à développer et de maintenir tous les codes à jour.
Il y a aussi ce matin, donc vous opériez une formation. Comment dégoogliser ces appareillages? Vous avez eu deux propositions, celle concernant les téléphones, peut-être, et peut-être aussi les ordinateurs. Alors, ce sont deux systèmes différents, quand même, au niveau de la manipulation. Comment peut-on dégoogliser un appareil numérique? Est-ce qu'il y a des paramètres à modifier? Ou est-ce qu'il faut aller à la chasse de fichiers cachés qui permettent... à notre insu de se remettre à jour, même si on opère des nouveaux paramétrages. Comment ça se déroule?
Alors, sur un téléphone, en fait, on peut déjà aller farfouiller et regarder toutes les autorisations que nos applications demandent. Et on est parfois surpris de voir qu'une application pour jouer aux échecs demande l'accès à la position GPS, à la caméra, au micro, alors qu'a priori, il n'y en a absolument pas besoin. Et du coup, le but de l'atelier de ce matin, c'était un peu de donner les clés pour les participants et les participantes pour arriver à aller derrière l'interface familière de leur téléphone et de comprendre quelles applications et où ça se passait, en fait, les fuites dont je parlais. Et donc il y a déjà ça, trouver dans notre téléphone, dans les paramètres, les endroits où on peut prendre conscience de tout ça. Et il y a aussi des applications du genre comme Exodus qui permettent de faire un scan du téléphone et de donner toutes les fuites, enfin les fuites, j'appelle ça les fuites, mais tous les accès qui sont autorisés par toutes les applications qu'on utilise. Et ça permet déjà de prendre conscience. Ensuite, pour la partie plus appliquée et pour sortir réellement de toutes ces applications qui font fuiter tout ça, et ben c'est pour ça qu'on propose une table, un atelier ouvert toute l'après-midi où les gens peuvent venir avec leurs appareils numériques et on les accompagne dans par exemple, leur proposer les applications libres qui peuvent remplacer leurs applications mouchardes ou carrément désinstaller Android et réinstaller. Et donc, pour désinstaller Android sur un téléphone, il faut regarder sur le site de Lineage OS, par exemple, pour voir si le modèle de notre téléphone a déjà été traité par une équipe. Et il faut aller dans c'est un petit peu complexe, il faut aller dans le téléphone pour se mettre en mode programmateur et aller vraiment sur le code source de notre téléphone et réinstaller ce système d'exploitation.
Ça veut dire que sur n'importe quel téléphone portable Android, on peut y accéder à ce langage de paramétrage et peut-être aussi de, comment on appelle ça, de langage informatique. On peut procéder, parce que quand on utilise notre téléphone portable, il y a toujours ces interfaces Android, mais Est-ce qu'il y a aussi cet écran noir avec ce langage incompréhensible qu'on peut afficher sur un téléphone, donc ?
Tout à fait. Tous les téléphones peuvent... On peut toujours aller dans le mode programmateur du téléphone. Après, je déconseille aux personnes qui ne sont pas férues d'informatique et qui ne comprennent pas le langage, le code informatique, de commencer à modifier des choses sur le téléphone, parce que ça risquerait de résulter en une panne de l'appareil. Mais aujourd'hui, il y a vraiment des tutos sur Internet qui sont assez faciles d'accès, et notamment pour GraphenOS, pour tous les Pixel Phone. Il y a GraphenOS qui est assez facile à installer en autonomie. Moi, c'est comme ça que je me suis motivé à animer l'atelier aujourd'hui. C'est qu'en me rendant compte que j'avais réussi à le faire tout seul, je me suis dit que c'était facile de donner les clés de compréhension et de dédramatiser un peu ce qu'on peut mettre autour de la complexité informatique, et qu'à partir de commandes simples, on arrive en fait à accéder et à réécrire le logiciel de notre téléphone portable en profondeur.
Je parlais de l'Yodi pour Di, hein, et le Diwa. Est-ce qu'il y a des propositions similaires un peu à votre connaissance sur l'ensemble du territoire national avec ces décentralisations, hein, de serveurs notamment?
Bah, je pense que dans chaque région, dans chaque département, il y a des réseaux existants. Moi, j'habite dans les Hautes-Alpes. On a une association qui, du coup, accueille des install parties une fois par mois. Il y a des tiers-lieux ou des lieux associatifs qui proposent aussi ce genre de démarche. Donc, vraiment, intéressez-vous à ça et faites vos recherches à côté de chez vous. Mais la carte des parrains et marraines Linux peut être très utile pour ça. Et il y a plein de réseaux accessibles en ligne qui pourront vous donner des contacts. Donc n'hésitez pas à faire preuve de curiosité, à aller chercher les réseaux à côté de chez vous.
Alors, une question, celle de l'alternative que vous proposez, est-ce qu'elle va jusqu'à même mettre à disposition cet accès de navigateur gratuitement, ou alors il y a toujours un prix à payer pour accéder au réseau ?
Non, les logiciels et les applications sont gratuites. Mais par contre, la connexion à Internet, alors oui, aujourd'hui, l'accès à Internet via les satellites est toujours payante. Après, il existe des fournisseurs d'accès associatifs qui se développent depuis pas mal d'années, mais encore une fois, il ne faut pas hésiter à faire des recherches. Elles sont plutôt locales, donc c'est plutôt par département. Mais il y a des associations qui commencent à proposer des box à 35 euros par mois, par exemple, dans la Drôme, pour avoir un fournisseur d'accès associatif libre qui n'est pas Orange, SFR, ou, pour ne pas les citer.
Un téléphone portable, ça fait pratiquement 30 ans que cela existe. On a pu voir cette évolution, hein, aussi par rapport aux fréquences. Là, aujourd'hui, on en est à la 5G. J'imagine que les générations vont encore s'améliorer. Est-ce qu'il y a toujours cette possibilité de pouvoir bricoler aussi, comme les premiers ordinateurs, on pouvait bricoler, on pouvait paramétrer sans pour autant mettre en péril la machine. Est-ce qu'aujourd'hui, ça s'est beaucoup plus densifié au niveau de la technologie ? Et est-ce qu'il y a aussi justement une réflexion autour de cet accès à l'alternative, de pouvoir bricoler ces appareillages qui sont proposés par exemple les systèmes Linux ?
Alors c'est vrai que passer sous Linux permet de détourner un peu l'obsolescence programmée, parce que c'est des logiciels qui en général sont beaucoup moins lourds pour les appareils.
D'ailleurs, juste, je me souviens effectivement, un appareil qui fonctionne sur un système Windows qui ne fonctionne plus peut de nouveau fonctionner avec un système Linux parce que beaucoup moins gourmand.
Tout à fait. Donc ouais, c'est des systèmes d'exploitation qui sont beaucoup plus légers, qui permettent aux machines qui seraient obsolètes sinon de continuer à fonctionner. De la même manière, pour les téléphones portables, il y a des... au bout d'un moment, les mises à jour ne sont plus proposées sur certains modèles pour Android, et ce qui fait que ça expose l'utilisateur ou l'utilisatrice à des failles de sécurité importantes, alors qu'avec les OS libres, on peut continuer à mettre à jour et typiquement avoir la dernière version d'Android. Alors Android, c'est un peu, c'est un mot qui peut être à double sens, parce que Android, on l'utilise communément pour parler du système d'exploitation de Google, mais au départ c'est un operating system qui est libre, et du coup Google a rajouté des couches par-dessus pour le faire sien. Mais avec un Pixel 3, par exemple, on ne peut plus mettre à jour la version Google d'Android, alors qu'avec GraphenOS, on peut installer la dernière version d'Android libre dessus, et donc avoir un appareil qui est protégé et mis à jour, et qui donc n'est plus obsolète.
À votre connaissance, est-ce qu'il existe des sites Internet pour se documenter ? Par exemple, la personne qui souhaite voir les modifications possibles sur son téléphone portable, est-ce qu'il y a des conseils ?
Bah, tout à fait. Je pense que installer l'application Exodus sur son téléphone portable, c'est très utile. Ça peut valoir le coup aussi d'aller sur le site internet d'Exodus, donc E-X-O-D-U-S, avec un epsilon comme symbole. Y a les sites des systèmes d'exploitation libres qui proposent une présentation assez exhaustive en ligne. Donc j'ai cité GraphenOS pour les téléphones Pixel, donc Graphen comme le carbone, GraphenOS, LineageOS ou EOS, qui sont les trois principales alternatives à l'Android de Google. Et leurs sites sont assez bien fournis et proposent pas mal de solutions. Et après, il y a plein de communautés en ligne, de chaînes de vidéos qui permettent d'avoir un accès et des vulgarisations. Enfin, il y a plein de vulgarisateurs en ligne qui font un super travail là-dessus.
Quelle est la place de l'IA dans le système Linux ?
Et ben là, je dois dire que je ne vais pas être hyper compétent pour répondre, parce que
est-ce qu'il existe une présence IA dans le système Linux ?
Pas à ma connaissance, parce que l'IA, pour l'instant, elle est accessible en ligne. Probablement qu'il y a des serveurs physiques où on peut discuter avec des IA, mais ça se passe plutôt dans des labos de recherche. L'IA, en plus, elle se nourrit de toutes les informations que l'Internet lui donne et que les utilisateurs et les utilisatrices qui font des demandes à cette IA, en fait, tout ce qu'on lui donne rentre dans son logiciel et dans ses métadonnées. Alors que Linux est un système d'exploitation, donc c'est un code informatique qui permet d'utiliser le matériel informatique et indépendamment de l'accès à Internet ou non. Donc je pense pas que l'IA soit directement liée à Linux.
Il y a ça aussi, c'est ce côté de présence, hein, de surveillance aussi de ce qui circule, hein, sur les réseaux sociaux, sur les systèmes d'exploitation. Il y a pour vous aussi, en quelque sorte, cette recherche de pouvoir se mettre à l'écart de ces écoutes. Et pour cela, il y a toute une création à venir ou qui se transforme peut-être.
Je pense que pour les questions de vie privée et d'éviter les fuites d'informations, il y a une espèce d'hygiène d'utilisation du numérique à avoir. Et dans les réseaux militants notamment, il y a des formations qui sont opérées pour que les gens soient un petit peu au fait des risques qui peuvent être liés à l'utilisation d'applications de discussion en ligne. Et parfois, les gens méconnaissent, mais on peut utiliser une application de messagerie cryptée et sécurisée, mais l'application clavier de notre téléphone peut envoyer les données sur un serveur à notre insu. Donc c'est pour ça que Exodus Privacy permet vraiment d'avoir un scan assez intéressant de notre téléphone portable.
À part Exodus, est-ce qu'il y a d'autres sites internet à conseiller aux auditeurs ?
La Quadrature du Net, Exodus Privacy
et code.gouv.fr,
qui est un site officiel qui est assez instructif et qui est assez précieux, parce que On a quand même en France une culture des logiciels libres et de la vie privée dans l'utilisation de l'informatique qui n'est pas partagée partout. Et du coup, on a quand même un site gouvernemental qui recense toutes les initiatives.
Merci Milan.
Merci à vous.
Bonne soirée.
Au revoir.